Radio Vatican présente Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Le conflit inévitable.
Le pardon et la réconciliation sont des thèmes fortement mis en exergue dans le christianisme et, de diverses manières, dans d'autres religions. Le risque, c'est de ne pas comprendre convenablement les convictions des croyants et de les présenter de telle sorte qu'elles finissent par alimenter le fatalisme, l'inertie ou l'injustice, ou alors l'intolérance et la violence.
Jésus-Christ n'a jamais invité à fomenter la violence ou l'intolérance. Il condamnait ouvertement l'usage de la force pour s'imposer aux autres. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Par ailleurs, l'Évangile demande de pardonner 70 fois 7 fois et donne comme exemple le serviteur impitoyable qui, pardonné, n'a pas été capable à son tour de pardonner aux autres.
Dans d'autres textes du Nouveau Testament, nous pouvons remarquer que, de fait, les communautés primitives, plongées dans un monde païen saturé de corruption et de dérives, avaient le sens de la patience, de la tolérance, de la compréhension. Certains textes sont très clairs à cet égard. On invite à reprendre les adversaires, on exhorte à n'outrager personne, éviter les disputes, se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes une parfaite douceur. Car nous aussi, nous étions naguère des insensés. Le livre des Actes des Apôtres affirme que les disciples persécutés par certaines autorités avaient la faveur de tout le peuple.
Cependant, quand nous réfléchissons sur le pardon, la paix et la concorde sociale, nous nous trouvons face à une affirmation de Jésus-Christ qui nous surprend. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Il est important de situer cette affirmation dans le contexte du chapitre où elle se trouve. De toute évidence, le thème qui est abordé est celui de la fidélité à un choix, sans honte, même si cela comporte des contrariétés et même si des proches s'opposent au choix en question. Par conséquent, cette affirmation n'invite pas à rechercher les conflits, mais simplement à supporter le conflit inéluctable pour que le respect humain ne conduise pas à s'écarter de la fidélité en vue d'une supposée paix familiale ou sociale. Saint Jean-Paul II a déclaré que l'Église n'entend pas condamner tout conflit social sous quelque forme que ce soit. L'Église sait bien que les conflits d'intérêts entre divers groupes sociaux surgissent inévitablement dans l'histoire et que le chrétien doit souvent prendre position à leur sujet avec décision et cohérence.
Les luttes légitimes et le pardon.
Il ne s'agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu, devant un criminel ou devant quelqu'un qui dégrade notre dignité. Nous sommes appelés à aimer tout le monde sans exception. Mais aimer un oppresseur, ce n'est pas accepter qu'il continue d'asservir. Ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est admissible. Au contraire, l'aimer comme il faut, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer, c'est lui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l'autre ou laisser un criminel continuer à faire du mal. Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits et ceux de sa famille, précisément parce qu'il doit préserver la dignité qui lui a été donnée, une dignité que Dieu aime. Si un malfaiteur n'a fait du tort à moi ou à un être cher, personne ne m'interdit d'exiger justice et de veiller à ce que cette personne ou tout autre ne me nuise de nouveau ou ne fasse le même tort à d'autres. Il faut le faire et le pardon non seulement n'annule pas cette nécessité, mais l'exige.
L'essentiel, c'est de ne pas le faire pour nourrir une colère qui nuit à notre âme et à l'âme de notre peuple, ou par un besoin pathologique de détruire l'autre qui déclenche une course à la vengeance. Personne n'obtient la paix intérieure ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière. La vérité, c'est qu'aucune famille, aucun groupe de voisins, ni aucune ethnie, encore moins aucun pays, n'a d'avenir si le moteur qui unit, agrège et couvre les différences est la vengeance et la haine. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord et nous unir pour nous venger, pour perpétrer contre celui qui a été violent ce qu'il nous a fait, pour planifier des occasions de représailles sous des formes apparemment légales. On ne gagne rien ainsi et à la longue, on perd tout.
Certes, dépasser l'héritage amer d'injustice, d'hostilité et de défiance laissée par le conflit n'est pas une tâche facile. Cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien et en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. De cette manière, à celui qui l'a fait grandir en lui, la bonté donne une conscience tranquille, une joie profonde même au milieu des difficultés et des incompréhensions. Jusque dans les offenses subies, la bonté n'est pas faiblesse, mais vraie force capable de renoncer à la vengeance. Il faut également que je reconnaisse à mon niveau que le jugement sévère que je porte dans mon cœur contre mon frère et ma sœur, cette cicatrice jamais refermée, cette offense jamais pardonnée, cette rancœur qui ne peut que me nuire, que tout cela est un nouvel épisode de la guerre en moi, un feu dans mon cœur qu'il faut éteindre avant qu'il ne s'embrase.
La vraie victoire.
Quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé, il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves. Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. La lutte entre divers secteurs, si elle renonce aux actes d'hostilité et à la haine mutuelle, se change peu à peu en une légitime discussion d'intérêts fondée sur la recherche de la justice.
À plusieurs reprises, j'ai proposé un principe indispensable pour construire l'amitié sociale. L'unité est supérieure au conflit. Il ne s'agit pas de viser au syncrétisme ni à l'absorption de l'un dans l'autre, mais de la résolution à un plan supérieur qui conserve en soi les précieuses potentialités des polarités en opposition. Nous le savons parfaitement, chaque fois que, en tant que personne et communauté, nous apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la compréhension et l'engagement réciproque se transforment en un domaine où les conflits, les tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires par le passé peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie.
La mémoire.
On ne doit pas exiger une sorte de pardon social de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement. La réconciliation est un fait personnel et personne ne peut l'imposer à l'ensemble d'une société, même si elle doit être promue. Dans le domaine strictement personnel, par une décision libre et généreuse, quelqu'un peut renoncer à exiger un châtiment, même si la société et sa justice le demandent légitimement. Mais il n'est pas possible de décréter une réconciliation générale en prétendant refermer par décret les blessures ou couvrir les injustices d'un manteau d'oubli. Qui peut s'arroger le droit de pardonner au nom des autres ? Il est émouvant de voir la capacité de pardon de certaines personnes qui ont su aller au-delà du mal subi. Mais il est aussi humain de comprendre ceux qui ne peuvent pas le faire. Dans tous les cas, ce qui ne doit jamais être proposé, c'est l'oubli.
La Shoah ne doit pas être oubliée. Elle est le symbole du point où peut arriver la méchanceté de l'homme quand, fomenté par de fausses idéologies, il oublie la dignité fondamentale de chaque personne qui mérite un respect absolu, quel que soit le peuple auquel elle appartient et la religion qu'elle professe. Pour la rappeler, je ne peux pas ne pas répéter cette prière. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Donne-nous la grâce d'avoir honte de ce que, comme homme, nous avons été capables de faire. D'avoir honte de cette idolâtrie extrême. D'avoir déprécié et détruit notre chair, celle que tu as modelée à partir de la boue. Celle que tu as vivifiée par ton haleine de vie, jamais plus, Seigneur, jamais plus.
On ne doit pas oublier les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Une fois encore, je fais mémoire ici de toutes les victimes et je m'incline devant la force et la dignité de ceux qui, ayant survécu à ces premiers moments, ont supporté dans leur corps, de nombreuses années durant, les souffrances les plus atroces et dans leur esprit, les germes de la mort qui continuaient à consumer leur énergie vitale. Nous ne pouvons pas permettre que les générations présentes et nouvelles perdent la mémoire de ce qui est arrivé, cette mémoire qui est garantie et encouragement pour construire un avenir plus juste et plus fraternel. On ne doit pas non plus oublier les persécutions, le trafic d'esclaves et les massacres ethniques qui se sont produits et qui se produisent dans plusieurs pays, ainsi que tous les autres faits historiques qui nous font honte d'être des hommes. Nous devons toujours nous en souvenir, sans relâche, inlassablement, sans nous laisser anesthésier.
Il est facile aujourd'hui de céder à la tentation de tourner la page en disant que beaucoup de temps est passé et qu'il faut regarder en avant. Non, pour l'amour de Dieu, on ne progresse jamais sans mémoire. On n'évolue pas sans une mémoire complète et lumineuse. Nous avons besoin de garder vivante la flamme de la conscience collective, témoignant aux générations successives l'horreur de ce qui est arrivé, qui réveille et conserve de cette façon la mémoire des victimes afin que la conscience humaine devienne toujours plus forte face à toute volonté de domination et de destruction. Les victimes elles-mêmes, personnes, groupes sociaux ou nations, en ont besoin pour ne pas céder à la logique qui porte à justifier les représailles et quelques violences au nom de l'énorme préjudice subi. C'est pourquoi je ne me réfère pas uniquement à la mémoire des horreurs, mais aussi au souvenir de ceux qui, dans un contexte malsain et corrompu, ont été capables de retrouver la dignité et par des petits ou grands gestes, ont fait le choix de la solidarité, du pardon, de la fraternité. Il est très sain de faire mémoire du bien.
Pardon sans oubli.
Le pardon n'implique pas l'oubli. Nous disons plutôt que lorsqu'il y a quelque chose qui ne peut en aucune manière être nié, relativisé ou dissimulé, il est cependant possible de pardonner. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne doit jamais être toléré, justifié ou excusé, il est cependant possible de pardonner. Quand il y a quelque chose que pour aucune raison nous ne pouvons nous permettre d'oublier, nous pouvons cependant pardonner. Le pardon libre et sincère est une grandeur qui reflète l'immensité du pardon divin. Si le pardon est gratuit, alors on peut pardonner même à quelqu'un qui résiste au repentir et qui est incapable de demander pardon.
Ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Ils brisent le cercle vicieux, ralentissent les progrès des forces de destruction. Ils décident de ne pas continuer à inoculer dans la société l'énergie de la vengeance qui, tôt ou tard, finit par retomber une fois de plus sur eux-mêmes. En effet, la vengeance ne satisfait jamais vraiment les victimes. Certains crimes sont si horribles et si cruels qu'infliger des peines à leurs auteurs ne peut pas donner le sentiment que le dommage causé a été réparé. Il ne suffit pas non plus de tuer le criminel, il serait de même impossible de trouver des tortures qui équivaillent aux souffrances que la victime a pu avoir endurées. La vengeance ne résout rien.
Cependant, nous ne parlons pas d'impunité. Mais la justice ne se recherche que par amour de la justice elle-même, par respect pour les victimes, pour prévenir de nouveaux crimes et en vue de préserver le bien commun, mais certainement pas pour évacuer sa colère. Le pardon, c'est précisément ce qui permet de rechercher la justice sans tomber dans le cercle vicieux de la vengeance, ni dans l'injustice de l'oubli.
Quand des injustices sont commises de part et d'autre, il faut clairement reconnaître qu'elles peuvent ne pas avoir la même gravité ou n'être pas comparables. La violence exercée par les structures et le pouvoir de l'État n'est pas au même niveau que la violence perpétrée par des groupes particuliers. De toute manière, on ne peut pas demander que l'on se souvienne uniquement des souffrances injustes d'une seule des parties. Comme l'ont enseigné les évêques de Croatie, nous devons à toutes les victimes innocentes le même respect. Il ne peut ici y avoir de différence raciale, confessionnelle, nationale ou politique.
Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Demandons-lui d'oindre tout notre être de l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de la paix.
Radio Vatican vous a présenté Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Avec les voix de Manuela Affigi, Muando Babualo, Olivier Bonnel, Marie Duhamel, Xavier Sartre, Cyprien Viet
et Jean-Charles Puzolu.
Assistance technique de Roberto Colangeli et Mario Scaton. Une production Radio Vatican en collaboration avec la Libreria Editrice Vaticana.